Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 17 juin 95.
Nous étions restés à cet éveil de notre affectivité, ou l'éducation de notre affectivité. Oui, c'est le fondement, ce que nous voyons, pour toute une pédagogie. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est la philosophie du vivant qui est fondamentale. Et donc la rencontre avec le point de vue de la psychologie, ce serait là. Et ce serait du côté affectif. Parce que pratiquement, la psychologie regarde surtout l'affectivité. Elle devrait regarder aussi le développement de l'intelligence. Mais le développement de l'intelligence, peut-on le connaître en dehors de la philosophie? Je ne crois pas. Tandis que l'affectivité, on peut la décrire beaucoup facilement. Il n'y a pas d'abstraction. Notre affectivité est toujours sensible, toujours liée au sensible, et donc toujours liée au corps, et toujours liée à l'instinct de nourriture. Le premier instinct, c'est l'instinct de la respiration, et c'est le point de vue du boire et du manger. C'est ce qu'il y a de premier, et c'est cette affectivité-là qui est liée dans son développement, qui est lié naturellement à l'expérience. Il faut une certaine expérience. Mais voyez, l'instinct est... C'est une connaissance. C'est une connaissance sauvage. Brutal. Il suffit pour la question du boire et du manger. L'enfant n'a pas d'expérience, alors qu'il est porté instinctivement vers le lait maternel. Et on remplace par le biberon. Un peu à son instinct quand on fait ça. Vous voyez, l'aspect naturel est remplacé par une convention. C'est sûr. Nous nous rappelons tout ça. On nous a menti radicalement. Et il y a une répercussion. On ne peut pas être autrement. On ne peut pas violer les lois de la nature. On ne peut pas. La nature se venge d'une manière ou d'une autre, d'une manière très irascible. Parce que l'homme est un animal doux par nature, mais il est terriblement irascible quand il commence à voir qu'on n'a pas répondu à ses appels. Que le milieu dans lequel on a vécu, point de départ, était trop artificiel. Et c'est pour ça que quand le milieu naturel est plus naturel, au fond, c'est pour le réalisme futur que ça joue. Et je crois qu'on doit être très attentif à ça. Je me souviens, c'était un grand japonais, c'était pas catholique, un grand japonais, peintre, artiste peintre, vraiment, vraiment, très artiste, avait épousé une Française qui était très musicienne, qui avait toutes ses... Elle, c'était la musique, et lui, c'était la peinture. Elle avait été baptisée, lui, ne l'était pas. Il y avait une petite fille qui était née de... qui avait un instinct pictural extraordinaire. Et vraiment un instinct pictural. Qui peignait à 5 ans. l'avais connu par des amis. Et ça m'intéressait. Mais c'était lui qui avait amené une fois comme ça, une messe de minuit, chez des dominicaines. Après la messe de minuit, il m'a dit, je comprends pas que vous soyez dans la joie. Parce que c'est triste. Il n'y avait plus de place pour lui, à Bethléem. C'était ça qu'il avait retenu. L'humanité n'a pas reçu Jésus. Ah, c'est vrai. J'ai regardé, il disait, l'humanité est trop bête pour recevoir Jésus. Il m'a dit, oui, c'est vrai, ça. Et il avait le souci vis-à-vis de cette petite fille, il m'avait dit. Parce que vous voyez, en plus de ça, toutes les traditions, que les enfants sont immaculés, sont comme des dieux. Ça, dans son instinct religieux, traditionnel, c'était ça. Et donc il fallait, vis-à-vis de cet enfant, ne lui présenter que des choses naturelles. Il avait une horreur du plastique, une horreur de toutes choses falsifiées. Et il fallait que des choses naturelles, que l'enfant ne touche que des choses naturelles, et que tout le milieu soit naturel. Pour les vêtements, pour le toucher. Autrement, il me disait, on falsifie son toucher. Alors c'était poussé à l'extrême. Parce que, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Venez, il faut être capable de discerner le naturel de l'artificiel pour ne pas être endommagé par l'artificiel. Autrement, on confond. Et c'est une triste confusion. Vous savez l'histoire de Valérie. Dans Valérie, le point de vue Monsieur Test, qui se trouve auprès d'une plage et qui regarde les cailloux pour savoir s'ils sont naturels ou pas, s'ils sont artificiels ou naturels. C'est très chose très, très belle, ça. Et c'est très vrai. Et ça se fait tout de suite. La nature, les qualités de la nature ont quelque chose d'unique pour éduquer l'affectivité. Alors, on n'en peut rien si on a été éduqué dans un milieu purement artificiel. Ou bien si on a été éduqué quand même dans une maison où on touchait la terre, où on touchait l'eau. Et non pas au sixième étage. On n'a jamais touché le plancher des vaches. Normalement, les vaches ne montent pas au sixième. Il y a quand même quelque chose de particulier. Mais alors, sans aller à l'extrême, sans systématiser ces choses-là, il faut les reconnaître. Notre affectivité est liée à nos expériences. Et nos expériences extérieures impliquent les qualités, et non pas seulement les sensibles communs. Quand c'est falsifié, il n'y a plus que les sensibles communs. Et les sensibles propres sont très abîmés. Et ne sont plus ce qu'ils doivent être. Parce que nous pouvons modifier les sensibles communs au point de vue artificiel, au point de vue art, au point de vue donc milieu conventionnel. On ne peut pas changer les sensibles propres. Mais quand on a la main mise sur les sensibles communs, on diminue. Et quelquefois, on les efface complètement, les sensibles propres. Oui, c'est toute la différence entre l'art de peintre pictural, la sculpture, l'architecture et le point de vue du cinéma. Le cinéma agit sur les sensibles communs. De façon très étonnante. Et alors, le cinéma, la télévision, tout. Et c'est pour ça qu'un gosse élevé dans un milieu artificiel de télévision, C'est très mauvais pour lui. Ça devrait être défendu d'élever un gosse en face de la télévision. Parce qu'on falsifie sa sensibilité. Au moins si, auprès d'une vache, ça va. Mais la télévision, non. Auprès d'une brebis, ça va. Auprès d'un chat, ça va. Auprès d'un chien, ça va. C'est réel. Les sensibles propres. Vous voyez, pensez à ça, vous voyez. L'éveil de l'affectivité se fait par les sensibles propres. Il y a un monde qui devient de plus en plus artificiel et qui élève un enfant dans le point de vue artificiel, fait que le réalisme est coupé. Alors on peut le rattraper, hein, faisons attention. Heureusement, grâce à Dieu. Pour un psychanalyste, on ne peut pas le rattraper. Et c'est pour ça que ça conduit au désespoir. Tandis que, au point de vue philosophique, dans le réalisme, on peut le rattraper. Parce que notre intelligence demeure. Et le réalisme, ce n'est pas notre sensibilité, c'est l'intelligence qui se sert de la sensibilité. Alors on peut s'éveiller au réalisme à 25 ans. C'est plus difficile. Ou à 5 ans, et à 2 ans, et à 1 an. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus, parce que c'est l'éveil de l'affectivité. Et l'éveil de l'affectivité est plus sensible au milieu dans lequel on se trouve que l'éveil de l'intelligence. L'intelligence est source d'autonomie. L'affectivité est source de dépendance. Ça, c'est évident. Alors, de qui sommes-nous dépendants? Si nous sommes dépendants des sensibles propres, bravo. Si nous sommes sensibles, dépendants des sensibles communs, terrible. Et c'était le point de départ. Qu'au fond, en fonction du milieu, parce que plus on est proche de la naissance, plus on est dépendant du milieu. Vous voyez ? Ça, c'est sûr. Et les jeunes mamans qui sont réalistes le savent et voient combien, dans les pays comme l'Afrique, l'enfant reste proche de sa mère quand il est tout petit. Il ne quitte pas sa mère. Et la mère ne le quitte pas. Elle le porte partout où elle va. Et c'est le milieu naturel. Là, vous dites, c'est au fond très fermé comme milieu. Ah, n'ouvrez pas trop vite ça. Il faut que l'affectivité se déploie. Si vous le faites comme milieu, à la place de la mère, mettre un poste de télévision. C'est comme ça que est éduqué un Européen et un Américain aujourd'hui. Il y a la mère. Et elle se libère le plus possible de son gosse. Puis elle le met en point de télévision. Comme la télévision marche, c'est intéressant, le gosse est tranquille. Il est éduqué, il devient relatif à la télévision. Donc aux sensibles communs. Et il n'y a plus l'affectivité dans ce qu'elle a de tout à fait pur. Tout à fait limpide. Vous voyez ce qu'il faudrait. Et ça, il faudrait l'étudier de près. Il faudrait étudier de près comment l'affectivité s'éveille à partir d'une expérience naturelle vis-à-vis des sensibles propres. Et comment une affectivité va se développer en présence des sensibles communs. Manipulé par la télévision, manipulé par les médias, et non plus le sensible propre de la mère. Parce qu'il y a une répercussion sur l'affectivité. Vous comprenez tout de suite, j'espère. Les sensibles communs sont beaucoup plus liés à l'imaginaire. Les sensibles propres sont liés au réel. imaginative qui se développe. Et de l'autre côté, vous avez une affectivité sensible, quantitative, imaginative qui se développe. Et de l'autre côté, vous avez une affectivité réaliste qui se développe. Et le pauvre gosse n'en peut rien. C'est évident. Et il faut comprendre cela, que dans notre monde d'aujourd'hui, on ne fait aucune attention à ça. Parce que c'est trop exigeant. Et c'est vrai, c'est trop exigeant. C'est très exigeant, ça. C'est très exigeant de la part d'une mère. Comprendre que le gosse, tant qu'il est petit, jusqu'à 4 ans, 5 ans, le milieu affectif est capital pour lui. Et donc le milieu réaliste, naturel, est capital. C'est pas du luxe, c'est la nature. On est fait pour ça. Qu'après, nous vivions dans un monde très artificiel, ça joue beaucoup moins, une fois qu'on a fait le discernement. Venez. Mais même là, je crois que dans un développement affectif, on doit faire attention. Celui qui vit en face de son ordinateur. Il y a des intellectuels qui ne peuvent plus se passer dans leur ordinateur. Ils voyagent avec eux. Elle est tout le temps là. Qu'est-ce que ça fait au point de vue affectif? Alors ça, c'est pour plus tard. Mais les deux doivent se tenir. On y reviendra là-dessus, parce que je crois que ça, c'est très important. C'est pas du tout quelque chose de... C'est une chose très importante. Dans quelle mesure un moine peut-il vivre avec son ordinateur? Je me pose la question. Dans quelle mesure faudrait-il mettre dans le directoire, on interdira aux religieux de vivre avec leur ordinateur? Mais comme on interdit en communauté religieuse d'avoir la télévision. Parce qu'autrement, j'ai vu ça, j'ai vu des couvents où le lieu, qui est le lieu saint par excellence, le saint des saints, une salle, vous entrez, vous avez comme ça, la télévision est mise d'un gros poste de télévision, avec une couverture dessus, qui descend comme le nouveau tabernacle. Alors on lève ça, pieusement. Et puis, on a l'impression que c'est. Alors tous, alors là, c'est des bons fauteuils. Et la récréation est là. Alors qu'est-ce que devient la charité fraternelle? Mais, alors transposer ça, ça c'est le point de vue affectif. Transposer ça avec l'ordinateur. C'est quand même très curieux, ça. Ça n'a pas la même influence, c'est sûr, mais il y a quelque chose d'analogue. Il faut essayer de penser ces choses-là, parce qu'on les subit, mais on n'a pas le droit de les subir bêtement. Si on est chrétien, si on est religieux, on n'a pas le droit de diminuer sa vie religieuse à cause de ce lien, de cette amitié ou de cet esclavage. Choisissez. C'est un drôle d'ami, l'ordinateur. Ça peut être un terrible esclavage. Alors, il faut se demander, et on n'a pas le droit de se diminuer chrétiennement à cause de ça. Comme on n'a pas le droit de dire c'est à la mode aujourd'hui, la télévision, eh bien oui, vous passerez vos récréations devant la télévision. Et tous les jours, vous écouterez la télévision. C'est plus vite fait que d'apprendre par le journal ce qui se fait. Mais c'est très habile, ça. C'est vrai, c'est beaucoup plus vite fait. Mais c'est pas du tout le même accrochage. plus on est jeune, petit, plus le milieu joue affectivement. Donc plus il faut être attentif au milieu dans lequel l'enfant se trouve. Ça, c'est bien évident. Et il y a une analogie pour la vie chrétienne, pour la vie religieuse. Le noviciat est le point de départ de la vie chrétienne, de la vie monastique. Et parce que c'est le noviciat, il y a des grâces d'enfance, de petitesse. Il faut être d'autant plus attentif à ce milieu dans lequel on est. Et pas dire c'est du formalisme. Non, c'est du réalisme. Parce que la plante, la semence, est très dépendante du milieu dans lequel elle se trouve quand elle est encore une semence. Ou toute petite éclosion. Après, on devient un grand chêne qui crée un climat. C'est tout à fait autre chose. Et on aura la force de renvoyer promener tout ce qui risque de contaminer ça. Mais au point de départ, on a tous été, et c'est normal, c'est le propre de la vie humaine, d'avoir été dans cet état de petitesse où on est complètement dépendant du milieu. C'est pour ça que même avant la naissance, le milieu affectif joue entre le petit enfant qui est porté par sa mère et sa mère. Et je me souviens très bien d'une réflexion que ma mère faisait, avait faite, et que j'avais entendue, en disant, ces jeunes mamans d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles diraient aujourd'hui? Ces jeunes mamans, quand elles attendent un enfant, on a l'impression que leur seul souci, c'est de pouvoir continuer leur vie comme avant. Oubliant qu'elles ne peuvent pas le faire, parce qu'elles sont responsables de quelqu'un d'autre qu'elles portent en elles, et qui a besoin, lui, de calme, de paix, pour ne pas. Ceci, à titre d'expérience, et je crois que cette expérience-là est très juste, oui, parce que quand l'enfant est dans un climat de catacombe, les premières catacombes, c'est celle-là. Donc, c'est un secret, un lien secret avec la mère. Il est totalement dépendant d'elle. Et s'il naît avant terme, pour le sauver, on fera un climat artificiel. C'est pas vrai. Des couveuses électriques, où les pauvres petits doivent pousser là-derrière. Pas tout à fait. Ensuite, dans les rêves, ce sera, je crois, transporté. C'est pas la même chose d'être porté par sa mère ou d'être sous une couveuse électrique. Même si autour de la couveuse électrique, il y a des personnes extrêmement gentilles qui essaient de faire que l'enfant ne soit pas uniquement sous la couveuse électrique. C'est quand même la couveuse électrique. C'est curieux comme le point de vue de la nature, vous voyez. C'est ça que je voudrais que vous compreniez, parce que c'est le point de vue affectif. Combien l'homme a un pouvoir, plus la science augmente, plus la technique augmente, de diminuer, de remplacer le milieu naturel par un milieu artificiel. Sans voir que le milieu artificiel ne sera jamais l'équivalent du milieu naturel. Jamais. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que le milieu naturel vient de la matière, de la potentialité de la matière. Et la potentialité de la matière contient quelque chose. Des émanations, un magnétisme que l'on ne peut pas capter et qu'on ne captera jamais parce qu'il provient de la matière. Et il y a là quelque chose qui est très important comme principe. Alors le principe devrait être celui-là, au point de vue philosophique, il faut bien comprendre. L'affectivité ne peut se développer parfaitement que dans un milieu naturel. Pas l'intelligence, hein, mais l'affectivité. Pas l'intelligence. L'intelligence a besoin d'autre chose. Mais l'affectivité, or l'affectivité est première. Quand l'affectivité ne se développe pas assez, même le développement intellectuel ne se fera pas. Je vous ai cité cet exemple. Déjà, de ces expériences que le peuple d'Israël avait fait en Israël, dans l'éducation nationale, de faire que les enfants soient retirés à leur mère, éduqués par des infirmières nationales, très très dévouées du reste. Ces enfants n'ayant pas le milieu maternel, un milieu donc qui n'était pas artificiel, mais qui n'était pas naturel, qui n'était pas maternel, qui était naturel, mais pas maternel. Voyez, la première différence. Et après, c'est naturel et artificiel. Ne développez pas leur intelligence aussi vite que les autres. Et comme le peuple d'Israël a très fort le sens de l'intelligence, ils ont le courage de dire on s'est trompé. Ils ont envie autre chose. Donc, et ça c'est l'affectivité. L'affectivité enveloppe le développement intellectuel. Il faut un climat suffisamment affectif pour que l'intelligence s'éveille. Mais quand le climat affectif est trop fort, ça devient une serre surchauffée. Alors on ne peut plus respirer. Et alors ça devient quelque chose qui est trop lourd à porter. Et alors il n'y a pas non plus d'éclosion d'intelligence. Et c'est extraordinaire de voir comment naturellement Dieu dans sa sagesse a équilibré l'aspect affectif et l'aspect de l'intelligence. Et dans une éveil de l'affectivité, dans l'éveil de l'affectivité, on revoit ça. Transposer l'étude de l'atmosphère. Il faut une fois dans votre vie avoir essayé de voir l'analyse qu'on a fait de l'atmosphère qui enveloppe la Terre. C'est extraordinaire, hein, de voir l'harmonie qu'il y a dans cette atmosphère. Qu'on est peut-être, je dis peut-être, en train de troubler. C'est l'hypothèse de certains avants. C'est possible. On a fait des expériences qui sont des expériences terribles parce qu'elles sont mondiales. Elles peuvent toucher l'atmosphère. Avant, on faisait des expériences uniquement dans un laboratoire. Elles ne dépassaient pas le laboratoire. Et que maintenant, c'est l'atmosphère. Et ça peut toucher. Bon. Alors, il y a une analogie qui serait très intéressante à voir. Comment l'atmosphère de notre planète permet l'éclosion de la vie. Et comment l'atmosphère de la mer, les entrailles maternelles, la mère qui porte l'enfant permet l'éclosion d'une vie humaine, d'une vie d'homme, dites, c'est plus juste, d'une vie d'homme. Et après la première éclosion de la vie d'homme à la vie humaine, c'est-à-dire l'éveil des sensations, l'éveil de l'imagination, l'éveil de l'intelligence, tout cela enveloppé de l'éveil de l'affectivité. Ce milieu réclame une finesse d'éléments plus grands encore que la première éclosion. Et plus notre vie s'éveille à une vie spirituelle, plus nous sommes dépendant du milieu. Et besoin d'un milieu qui nous aide, un milieu porteur de notre vie religieuse, de notre vie contemplative, de notre vie intellectuelle. Et plus en même temps, on est indépendant. C'est ça qui est très très curieux. Oui. Alors vous seriez le milieu pour l'éclosion de la vie, le milieu pour l'éclosion du germe initial de la vie humaine et le milieu pour l'éclosion de la vie, de l'intelligence et du cœur. Il y a trois milieux successifs. Et tout ça pour l'affectivité, pour l'éveil de l'affectivité. L'affectivité ne peut se développer que dans un milieu comme naturel à cette affectivité. Autrement, il ne pourra pas se développer normalement. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce que Freud a saisi, mais pas plus. De voir combien on est dépendant du milieu et comment un milieu qui n'est pas suffisamment en connaturalité provoque des refoulements. Alors, refoulement provoque des arrêts de la croissance. Alors, les arrêts de la croissance, c'est très bien, ça fortifie quelquefois. Quand on doit porter sur la tête 5 kilos d'eau ou 10 kilos d'eau, ça empêche une croissance, n'est-ce pas ? Ça arrête la croissance, mais c'est bon, ça fortifie. Mais si c'est pendant toute la journée et toute la nuit, c'est un peu gênant, n'est-ce pas ? Quand c'est seulement pour un petit parcours, ça peut être très bon. Ça exige de se tenir droit, net, comme un pilier de cathédrale. C'est dit dans les psaumes. Hein. Vos jeunes filles sont des colonnes du temple. C'est ça, parce qu'elles portent sur la tête. Alors, elles sont des colonnes qui portent. Le milieu affectif est capital pour la croissance affective. Alors, discernons bien ce que je vous avais dit la dernière fois. Cette première éclosion de l'appétit et de l'appétit instinctif du boire, du manger et de la respiration. Et mettez la respiration en premier lieu. Parce que la respiration est quand même la chose primordiale. Et ça joue. On peut avoir des phénomènes terribles de gens qui ne peuvent pas supporter d'être en milieu fermé, avec beaucoup de personnes autour. La claustrophobie. On a une force intense de rester enfermé dans la grotte et plus pouvoir respirer. Ça provient de la jeunesse. Ça, c'est sûr. Alors, l'éveil et l'épanouissement de l'instinct du boire et du manger. Ça s'éduque. Ça s'éduque dans une première éducation. La première éducation consiste à mettre un rythme humain dans l'instinct de boire et de manger. Pour ne pas se précipiter à la cuisine dès qu'on a soif et dès qu'on a faim. Parce qu'il y a des frigidaires. Alors on se précipite. Pas au noviciat saint, parce que les frigidaires sont lointains et que l'œil du Père Maître empêche ça. Mais après, c'est terrible ça. Vous voyez, et c'est la première éducation. Et c'est pour ça que Dieu s'est servi la nourriture du boire et du manger, le corps du Christ, le sang du Christ, sous le mode de nourriture, pour montrer que c'est tout à fait primitif et tout à fait fondamental. Notre vie chrétienne est au rythme de l'Eucharistie. Ça, c'est sûr. Et elle est rythmée par ça. Si on a éduqué l'enfant et le chrétien à ne communier qu'une fois l'an, il aura un rythme l'a éduqué, au contraire, à la communion quotidienne. Ce que Pie X a voulu. Prévoyant ce qui se passerait. Il était prophète, Pie X. Prévoyant ce qui se passerait. Alors il a voulu la communion des enfants. Que très vite, ça rentre dans leur vie. La communion quotidienne. Vous voyez ? Donc l'éducation de l'instinct du boire et du manger, qui est fondamentale. Puis l'éducation de l'instinct sexuel. Distinguons bien les deux. Mais voyons aussi le lien. Aristote met très bien le lien. Il n'y a pas de séparation. Il y a un état imparfait et un état parfait. Normalement. Normalement, quand le vivant est parfait, il est capable d'engendrer. C'était la grande vision des anciens. Il faut la perfection. L'instinct sexuel relève de la perfection de la vie biologique pour être capable d'engendrer. Et il est en vue de cette capacité d'engendrer. Et bien, comme on éduque l'instinct du boire et du manger, il y a une auto-éducation, puisque normalement, on doit être capable de s'éduquer soi-même dans l'ordre sexuel. Une auto-éducation pour que, de fait, l'instinct sexuel soit dépassé par une finalité humaine et qu'on ne soit pas esclave de l'instinct sexuel. Mais quand le milieu ambiant, télévision, cinéma, ne cesse de nous parler de la libération de l'instinct sexuel, ça a une répercussion sur nous. Impossible autrement. Sauf si on est déjà un saint et qu'on est déjà abouti à la sagesse. Alors à ce moment-là, on se dit, pauvre type, c'est ça. Mais autrement, tant qu'on reste encore jeune et pas suffisamment formé, ça a une influence sur nous. Ça, c'est évident. Ça fait que les instincts sexuels sont un peu exacerbés et développés beaucoup plus qu'ils ne devraient l'être. Et c'est la tactique, point de vue chrétien, on dirait, c'est la tactique du démon. Pour faire que la vie religieuse ou la vie du célibat du prêtre devienne impossible. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, ouvertement. Ça se dit partout, ouvertement. Parce que de fait, on a manœuvré de façon telle qu'on n'a plus éduqué l'instinct sexuel dès son éveil. Et on l'a éduqué humainement. Et on a fait croire que non, c'est la même chose que l'instinct du boire et du manger. Et c'est pas la même chose. Alors je me suis dit, là, il faut être très, très attentif. Mais au fond, c'est ce que je voulais aujourd'hui, c'est parce que j'avais pas insisté assez sur la question du milieu, du climat dans lequel on est pour l'éveil de la vie affective. Affective au niveau de l'individu, au niveau de la personne et au niveau de l'espèce. Je crois qu'il y a trois niveaux affectifs.